Mardi 19 mai 1925. Il est plus de minuit, mais nous sommes tous les cinq assis dans nos sacs de couchage, dans la grande tente de Reggie, plantés sur les dalles en pente au camp 5 et cramponnés au montant pour empêcher le vent de plus en plus violent de déchirer la toile ou de nous emporter. Nous sommes très, très fatigués. J'ai mauvaise conscience en songeant que nous n'avons pas eu le temps d'enterrer George Mallory cet après-midi. Hier après-midi, comme je m'en aperçois en consultant ma montre. Nous sommes le 19 mai. 2 jours après la date prévue par le diacre pour tenter le sommet. Le vent n'a cessé de forcir. Le nuage lenticulaire qui planait au-dessus du sommet de l'Everest depuis le matin a fondu sur nous dans un tourbillon de neige après la tombée de la nuit. Et si nous étions restés sur la face nord avec Mallory, nous aurions dû passer au moins 1 heure ou 2 de plus à taper sur la roche gelée afin de libérer suffisamment de cailloux pour couvrir son corps. La création du plus modeste cairn aurait nécessité plus de temps et d'énergie que nous n'en avions avec la tempête qui approchait. Après avoir fouillé méticuleusement le cadavre, examiné sa posture et les indices relatifs à sa chute, noter des repères afin de pouvoir retrouver l'endroit où reposait Mallory, le diacre a annoncé qu'il était temps d'entamer la longue traversée vers le camp 5 à l'est. Quand j'ai protesté en faisant remarquer que Mallory méritait d'être enterré décemment malgré l'obscurité qui tombait et le vent qui se levait, c'est Reggie qui a dit
« Cela fait près d'un an qu'il est là, sous la neige, le soleil, la lune et les étoiles, Jake. Une nuit de plus ne fera aucune différence. » Nous allons bivouaquer au camp 5 et reviendrons demain enterrer Mallory.
Évidemment, nous n'y sommes jamais retournés. J'ai encore mauvaise conscience. Nous avons cependant été bien avisés de repartir au moment où nous l'avons fait et d'aller au camp 5 plutôt que d'essayer de retourner au minuscule camp 6. Vers 14h, le vent soufflait déjà si fort qu'il avait arraché une partie des fixations d'une des petites tentes mides du camp 5. Il n'en restait qu'un amas de toiles vertes et de piquets cassés recouverts de neige à flanc de montagne. Nous aurions pu essayer de la redresser en utilisant nos piolets comme piquets, mais nous ne nous sommes pas donné cette peine. L'autre tente mide avait été éventrée par une chute de cailloux qui avait transpercé les murs et le toit comme de la mitraille. Si quelqu'un avait été à l'intérieur à ce moment-là, il aurait probablement été tué. Et une longue nuit de vent violent et de nouvelles chutes de pierres s'annonçaient. Si bien que nous nous retrouvons tous les cinq serrés dans la grande tente de Reggie, que le diacre et Passang ont protégé des chutes de pierre par 2 gros blocs rocheux quand ils ont monté les chargements au camp 5 hier, dimanche, me corrigeais-je en me souvenant encore une fois qu'il est minuit passé. Ils ont non seulement calé les coins de la tente avec de lourdes pierres et enfoncé des pitons d'acier dans le roc pour arrimer les piquets, mais aussi quadriller le dôme avec au moins 20 mètres de la nouvelle corde haute résistance fixée à des blocs en amont et en aval. La tente de Reggie est suffisamment vaste pour qu'on puisse y tenir assis à 5. Mais il sera difficile de s'y allonger pour dormir. Si nous n'avons pas eu le temps d'enterrer Mallory, nous avons passé 1 heure dans le froid, penché au-dessus de son cadavre sur la face nord. Bien que nous ayons trouvé des étiquettes sur ses vêtements indiquant « J'ai Mallory », le diacre voulait être certain de l'identité du mort. Si bien qu'à un moment, 3 d'entre nous avons utilisé nos canifs pour gratter les gravillons du côté gauche du cadavre, de manière à pouvoir le soulever et apercevoir son visage. L'impression était la même que si nous avions soulevé une bûche qui aurait gelé dans le sol au cours d'un long et rigoureux hiver. À la fin, le diacre a dû se coucher sur le dos et se glisser presque sous le corps raide pour voir le visage. « C'est Mallory », a-t-il dit.
« Qu'est-ce que vous voyez d'autre ?» a demandé Passang.
« Il a les yeux fermés, une barbe de 3 jours sur les joues et le menton.
« Je parle de blessure apparente », a précisé Passang.
« Il y a une terrible perforation sur la tempe droite, au-dessus de l'œil. » Il a peut-être heurté un rocher en chutant, ou la lame de son piolet dans une tentative d'arrêt d'urgence.
Est-ce que la blessure traverse tout l'os du crâne?
Oui.
On peut le reposer maintenant?
Ai-je demandé en haletant.
On avait tous baissé nos masques à oxygène pour effectuer cette tâche. L'effort de soulever un cadavre gelé, pourtant à moitié éviscéré, était presque trop dur pour moi. « Oui », a dit le diacre en glissant sur le côté pour s'écarter du cadavre. Puis il a ajouté dans un murmure « Adieu, Georges ». Nous avons fouillé les poches de Mallory et le sac en toile qu'il avait dû porter sur la poitrine. Comme je l'ai déjà mentionné, il n'avait pas d'appareil à oxygène ni de sac à dos. Dans la poche de sa veste Norfolk, il y avait un altimètre semblable au nôtre, spécialement calibré pour des altitudes allant jusqu'à 9000 mètres, mais le cristal s'était cassé dans la chute et les aiguilles n'étaient plus là.
« Dommage », a commenté Reggie. « Nous ne saurons jamais si Irvine et lui ont vaincu le sommet. »
« Ils avaient plusieurs appareils photos dans l'expédition », a dit le diacre. Teddy Norton m'a dit que Mallory portait un Kodak Vest Pocket. Quand nous avons tiré le petit sac sur le côté, j'ai senti à l'intérieur quelque chose de dur et métallique. « Je crois que j'ai trouvé l'appareil », ai-je annoncé. Je me trompais. Il s'agissait en fait d'une grande boîte d'allumettes et d'une boîte en fer blanc de viande séchée. Nous les avons remises à leur place. Ses poches étaient remplies d'une variété d'objets courants, comme si Mallory était seulement sorti faire une promenade hivernale à Hyde Park. Un bout de crayon, une paire de ciseaux, une épingle de nourrice, un petit étui métallique pour les ciseaux et une lanière de cuir amovible qui avait relié le masque à oxygène à son casque de motard en cuir. J'ai reconnu la lanière parce que j'en portais une identique sous le menton. Nous remettions ces objets dans les poches au fur et à mesure, mais ne cessions d'en trouver de nouveaux. Un mouchoir usé et sale, renfermant un tube de vaseline, pour les lèvres gercées, nous le savions, puisque nous en avions aussi de la même marque, et un autre plus beau et richement monogrammé, GLM, à motif bleu, bordeaux et vert. Celui-là enveloppait quelques papiers. Le diacre les a feuilletés, mais il semblait s'agir de lettres personnelles. Aussi n'est-il pas allé au-delà des salutations et de ce qui était écrit sur les enveloppes. L'une était adressée à George Leith Mallory, Esquire, CEO British Trade Agent, Yalung, Tibet. C'était bien des courriers personnels ou d'affaires relatifs à l'expédition qui ne présentaient pas d'intérêt, hormis l'étrange suite de chiffres inscrits au crayon dans les marges d'une lettre qui lui avait été envoyée par une dame qui n'était pas son épouse.
« Ce sont des relevés de pression d'oxygène, » a dit le diacre. « Peut-être des notes pour savoir jusqu'où ils pouvaient aller avec leur bouteille ce dernier jour. »«
Il n'y a que 5 pressions indiquées, » a dit Reggie. « Je croyais qu'ils avaient quitté le camp 4 avec plus de 5 bouteilles d'oxygène. »«
C'est le cas. »«
Tout cela ne nous aide pas à comprendre quoi que ce soit, »
a dit Reggie.
« Peut-être pas. »
a admis le diacre. Il a remis chaque lettre dans son enveloppe, emballé soigneusement l'ensemble dans le mouchoir monogrammé et rangé le mouchoir dans la poche du mort. Même si nous n'avons rien pris, j'avais tout de même l'impression d'être un pilleur de tombes. C'était la première fois que je faisais les poches d'un cadavre. Le diacre paraissait habitué, et j'ai soudain réalisé qu'il avait dû le faire peut-être des centaines de fois sur le front. Dans d'autres poches, nous avons trouvé le canif de Mallory et ses lunettes.
C'est peut-être important,
a dit Reggie.
Le fait que ses lunettes soient dans sa poche.
Je n'ai pas compris tout de suite, j'étais trop occupé à tousser. Mais Jean-Claude a dit...
Oui, ça signifie qu'ils ont chuté au crépuscule, ou après la tombée de la nuit. Mallory a débuté son ascension le lendemain du jour où il a vu Norton tant souffrir d'ophtalmie. Il n'aurait sûrement pas retiré ses lunettes en plein jour.
Mais montait-il ou descendait-il quand ils ont chuté? A demandé Pasang.
À mon avis, il descendait,
a répondu le diacre.
Avait-il une torche?
A demandé Reggie.
Non. Odell l'a retrouvée dans leur tente au camp 6 et l'a redescendue. Le fait qu'ils n'aient pas emporté leur seule lampe électrique nous apprend presque avec certitude qu'ils ont quitté le camp 6 après le lever du soleil. Et que George Mallory était plutôt du genre distrait.
« Ne disons pas de mal des morts !»
ai-je déclaré entre deux accès de toux. Ce n'est pas du mal, c'est un fait.
Pendant les deux expéditions auxquelles j'ai participé avec lui, Georges n'arrêtait pas de perdre ou d'oublier des choses. Ses chaussettes, son nécessaire de rasage, son chapeau, son rouleau de papier toilette. Il était comme ça. Tout de même, ai-je commencé, mais je n'ai rien trouvé à ajouter. La main en visière devant les yeux, les nuages au-dessus de nous étaient si épais que nous avions effectué cette fouille sans nos lunettes, le diacre a regardé aussi loin vers l'amont que le lui permettait la neige tourbillonnante.
Il aurait été très difficile de descendre par ces goulottes et par ce côté du premier ressaut, sous la bande jaune, dans le noir, sans torche, sans fusée de détresse, ni lanterne ou bougie.
Nous avons tous scruté ces arêtes et goulottes là-haut dans la partie inférieure de la face. Vu que son corps est intact et qu'il était manifestement encore conscient et en train de faire un arrêt d'urgence au moment où il s'est arrêté, il est évident que Mallory n'a pas chuté d'aussi haut que l'arête nord-est, a dit le diacre, confirmant mon intuition.
Sûrement pas non plus de la bande jaune. Il est plus probable qu'il soit tombé d'une des goulottes ou des petites bandes de rochers plus près de nous.
Donc, Sandy à Erwin est peut-être en train de nous attendre à peine plus haut,
a dit Reggie.
Sauf si c'est à Erwin qui est tombé le premier et a entraîné Mallory dans sa chute.
Nous ne le saurons pas tant que nous n'aurons pas retrouvé le corps d'Erwin.
Vous voulez dire qu'on va continuer de chercher après ça, ai-je pensé, épuisé?
C'est alors que le diacre nous a soudain ordonné à tous de retourner au camp 5 avant que le vent ne s'intensifie davantage et que notre visibilité ne soit encore plus diminuée par la neige.
Rien de ce que nous avons trouvé sur George Mallory ne peut donc nous indiquer si Erwin et lui ont atteint le sommet, dit Reggie. Sa montre et son altimètre sont cassés et ont perdu leurs aiguilles.
C'est peut-être ce qui manque qui nous donne le meilleur indice, fait remarquer le diacre.
J'émerge un tout petit peu des profondeurs de mon sac de couchage en duvet.
L'appareil photo Kodak?
Non.
Une photographie de Ruth, la femme de Mallory.
Norton ainsi que tous les gens à qui j'ai parlé m'ont raconté que Mallory avait emporté la photo avec lui en quittant le camp 4. Personne ne l'a retrouvée là-bas, ni dans les deux camps supérieurs. Et il avait promis à Ruth de la poser au sommet.
Ou au point le plus haut qu'il aurait atteint avant de redescendre, Dieu sait où, dit J.C.
Le diacre hoche la tête et mâche la tige de sa pipe froide.
L'absence de la photo ne prouve pas qu'il ait atteint le sommet, fait remarquer Reggie.
Non, acquiesce le diacre. Seulement qu'il l'a laissé quelque part.
Peut-être à l'endroit où ils ont fait demi-tour, comme l'a dit Jean-Claude.
Reste à savoir où.
L'appareil photo manquant m'intéresse, dit le docteur Passang. Sa voix grave est aussi douce et tranquille que jamais.
Pourquoi?
Eh bien, quand confie-t-on un appareil photo à quelqu'un d'autre? Interroge le grand Sherpa.
Quand on lui demande de nous prendre en photo,
dit Reggie.
Mallory a peut-être donné le Kodak à Erwin au sommet, après avoir photographié le jeune homme.
Simple conjecture, dit le diacre. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si nous voulons continuer à chercher demain, nous devrions tous dormir un peu.
Facile à dire, réponds-je entre deux accès de toux.
Oh, bon Dieu, moi je ne peux pas dormir du tout à cette altitude.
Je vous en prie, Jake, dit le diacre. Nous sommes en présence d'une dame.
Reggie lève les yeux au ciel.
J'ai apporté des somnifères, dit Passang. Ils devraient vous garantir au moins 3 ou 4 heures de sommeil.
Dans le silence qui suit, j'imagine que tout le monde pense la même chose que moi. Comme ça, on sera tous en train de ronfler quand le vent emportera notre tente. Au moment où je m'apprête à faire un commentaire, Reggie lève la main.
« Chut, tout le monde !»
chuchote-t-elle.
« J'entends quelqu'un !» quelqu'un qui crie.
J'ai la chair de poule sur les avant-bras. Dans ce vent, dit le diacre, impossible, le camp 4 est beaucoup trop bas et...
Je l'entends aussi, dit Passang. Il y a quelqu'un qui crie, dehors, dans le noir.